Mutatuli, Saïdia et Adenda. Le père de Saïdia avait un buffle à l'aide duquel il labora son champ. Ce buffle lui fut enlevé par le chef du district de Parangkudjan. Pendant plusieurs jours, le pauvre homme ne prononça pas une parole. La saison des labours approchait, et si la terre de son champ ne se trouvait pas préparée, en temps voulu, il pouvait bien dire adieu à ses semeilles et à sa récolte future. Il faut faire observer à tous ceux qui connaissent Yava sans connaître Bantam que dans cette dernière région, la propriété foncière personnelle existe. Elle n'existe pas ailleurs. Le père de Saïdia se trouvait donc dans un état d'inquiétude mortelle. Il craignait la misère et la faim pour sa femme, pour son fils Saïdia, ainsi que pour tous ses autres petits garçons et petites filles. En outre, il tremblait que le chef du district ne le dénonçât au sous-préfet comme coupable d'infraction à la loi s'il ne se trouvait pas en mesure de payer son fermage. Alors, il prit un poignard que son père lui avait légué. Ce poignard n'était pas beau, mais il avait des vireaux d'argent plaqués tout autour de son fourreau. Le bout du fourreau lui-même était aussi en argent. Le père de Saïdia alla vendre ce poignard à un Chinois qui demeura au chef-lieu et le rapporta 50 francs avec lesquels il acheta un autre buffle. Saïdia, alors âgé de 7 ans environ, se lia d'une tendre amitié avec l'animal. Quand je dis amitié, je ne vais pas trop loin. C'est en effet une chose touchante que de voir combien le buffle yavanais s'attache au petit garçon qui le garde et le soigne. La grande et forte bête courbe sa lourde tête, il la fait aller à droite, à gauche, au simple toucher de l'enfant qu'il connaît, qu'il comprend et avec lequel il a grandi. Le petit Saïdia sut, en peu de temps, inspirer pareille amitié au nouvel hôte de sa famille. La voix caressante de l'enfant avait l'air de doubler la vigueur de ses reins robustes, et vraiment, lorsqu'il l'entendait, l'animal traçait un sillon plus profond dans l'argile solide et résistant. Lorsqu'ils arrivaient à l'extrémité du champ, le buffle se retournait docilement, et sans perdre un pouce de terrain, il traçait un sillon parallèle et régulier, de telle sorte que le terrain labouré finissait par ressembler à un jardin potager ratissé par un géant. Près de là s'étendaient les champs du père d'Adenda la fillette, qui, au dire des deux familles, était destinée à devenir un jour la femme de Saïdia. Aussi, quand les petits frères d'Adenda arrivaient à la ligne de démarcation, séparant les champs paternels, s'ils apercevaient de l'autre côté Saïdia suivant sa charrue, ils ne manquaient jamais de l'appeler. Saïdia répondait, et alors c'était à qui vantera le plus la force et la docilité de son buffle. Celui de Saïdia était peut-être bien le meilleur. Son jeune maître l'amadouait si bien par de douces paroles. Et les buffles, tout comme les hommes, sont sensibles aux caresses et aux flagorneries. Quand Saïdia arriva à l'âge de 9 ans, Adenda en avait 6. Ce fut à ce moment de leur vie que ce second buffle fut enlevé aussi par le chef du district de Parangkudjan. Réduit aux dernières expédients, le père de Saïdia se fit forcer de vendre à un Chinois 2 anneaux de rideau en argent que sa femme avait hérité d'un de ses parents. Il en retira 40 francs avec lesquels il acheta un 3e buffle. Les petits frères d'Adenda, ayant raconté que l'animal enlevé venait d'être conduit au chef-lieu, Saïdia, qui était fort triste, demanda à son père si en allant vendre ses anneaux, il ne l'avait pas aperçu. Mais son père refusa de lui répondre, craignant que ce buffle n'eût été abattu, comme on avait l'habitude de le faire pour tous ceux dont s'emparait le chef du district. Il fit son possible pour consoler l'enfant, qui ne cessait pas de pleurer. En pensant à son pauvre serviteur et aux 2 années qu'ils venaient de passer ensemble, c'est à peine s'il avait le courage de manger. Cependant, le nouveau buffle apprenait à connaître Saïdia. Il gagna bientôt son affection. Le souvenir des absences s'efface vite de nos cœurs. Quoique l'animal ne fût pas si fort que son prédécesseur, Quoique l'ancien joug fût trop large pour son cou, il se montra docile comme l'autre. Seulement, Saïdia, arrivée aux limites du champ, ne pouvait plus vanter au frère d'Adenda la merveilleuse vigueur de son buffle. C'est tout au plus si, en revanche, il se croyait en droit de faire valoir sa douceur et sa bonne volonté. Quand les sillons n'étaient pas tout à fait droits, quand il restait des mottes de terre en dehors de la charrue, il prenait sa houe et, tant bien que mal, il remédiait en cachette au travail défectueux. Un jour, Saïdia essayait vainement de faire avancer son buffle. L'animal ne bougeait pas. Irrité d'une résistance si opiniâtre et surtout si peu habituelle, l'enfant s'emporta et ne put pas s'empêcher de lui lancer une grosse injure. « Marche donc, bâtarde !» lui cria-t-il. Saïdia parlait innocemment. Il ne faisait que répéter ce qu'il avait entendu dire à d'autres conducteurs de buffles, mécontents de leurs animaux. Mais ce jour-là, ses paroles ne servirent à rien. Le buffle refusa d'avancer. Il secoua la tête comme pour se débarrasser de son joug, halétant péniblement et tremblant de tous ses membres. La terreur obscurcissait son grand œil bleu et sa lèvre se retroussait frémissante. « Fuis, Saïdia, sauve-toi !» s'écrièrent les frères d'Adenda. « Un tigre !» Et tous, enlevant au buffle leurs joues de labourage, ils grimpèrent sur leur large dos et partirent au galop. Ils traversèrent ainsi les champs de riz, les madriers, le fossé plein de boue, les taillis, la forêt, les plains et les routes, et ils rentrèrent, heure d'haleine, à Badour. Mais Saïdia ne se trouva point avec eux. Un saut imprévu de sa monture lui avait fait perdre l'équilibre et l'avait jeté à terre. Le tigre était à deux pas. Le buffle, emporté par la rapidité de sa course, fit encore quelques bonds au-delà de l'endroit où son jeune maître attendait la mort. Mais rebondissant aussitôt en arrière, il revint sur ses pas et, couvrant l'enfant de son cœur, il tendit sa tête armée vers le tigre, qui accourait menaçante. La bête féroce sauta et rencontra les cornes du buffle qui lui percèrent les entrailles. Elle tomba, éventrée et morte. Le courageux sauveur de Saïdia en fut quitte pour une blessure à l'épaule. Plus tard, lorsque ce buffle fut enlevé et abattu, je vous ai prévenu, lecteur, que mon récit était monotone. Saïdia venait d'accomplir sa 12e année, et Adenda savait tisser. Elle ornementait même ses tissus, et ses dessins trahissaient l'affliction de son âme, affliction provenant de la tristesse où elle voyait son Saïdia plongée. Les parents de Saïdia aussi n'étaient rien moins que joyeux. La mère avait bien guéri la blessure de l'animal fidèle qui venait de lui ramener son fils sain et sauf. Dieu sait si elle avait pleuré en apprenant par les frères d'Adenda que son fils venait d'être enlevé par le tigre. Tout en soignant la plaie du buffle, tout en la pansant, elle songeait aux ravages qu'aurait causé dans le cœur délicat de son enfant la griffe puissante qui avait pénétré si profondément dans les rudes chairs de son sauveur. Aussi, chaque fois quand elle mettait des herbes fraîches sur la blessure du buffle, elle caressait le brave animal et lui adressait de douces paroles pour lui faire comprendre sa reconnaissance maternelle. Plus tard aussi, quand, par l'ordre du chef, la brave bête fut conduite à l'abattoir, la mère de Saïdia espérait encore qu'elle comprendrait ses cris et ses pleurs et qu'elle devinerait qu'on ne l'abattait pas par l'ordre de ses derniers maîtres. Peu de temps après, le père de Saïdia s'enfuyait du pays pour échapper à la pain qui devait lui être infligée pour le non-paiement de son fermage. Il était complètement ruiné et dans l'impossibilité de remplacer son dernier buffle. Ses parents et les parents de sa femme, habitant toujours le district de Parangkoudjang, ne pouvaient lui être d'aucun secours. Il avait bien continué à travailler à l'aide de bêtes louées, mais c'était un travail ingrat et navrant pour un ancien propriétaire de buffle. Le maire de Saïdia mourut de chagrin, et ce fut alors que, dans un moment de découragement, Son père s'enfuit de Badur pour aller gagner sa vie dans le district de Buitenzorg. Mais parti sans feuille de route, il se fit ramener à Badur par la police et subit la peine de la bastonnade. Enfin, on l'enferma dans une maison de fous. Fou, je veux bien croire qu'il était. Il avait assez souffert pour le devenir. Mais ne craignait-on pas plutôt que le désespoir ne le poussa à la révolte? Il ne resta pas longtemps dans sa prison. La mort vint vite le rendre libre. Quant aux petits frères et aux petites sœurs de Saïdia, je ne sais pas ce qu'il devint. La maisonnette où il vivait autrefois à Badur resta inhabitée. Un beau jour, elle s'écroula. Construite avec des bambous et recouverte de feuilles aquatiques, entre autres de lys d'eau, elle ne pouvait durer longtemps et disparut. Un tas de poussière fangeuse et de détritus recouvrit bientôt le sol où tant de larmes avaient été versées. Il y a beaucoup d'endroits pareils à Lebak. Saïdia avait 15 ans lorsque son père partit pour Buitenzorg. Il ne l'accompagna pas, ayant bien autre chose en vue. Il venait d'apprendre qu'à Batavia, beaucoup de riches personnages allaient en Tilbury, et qu'il lui serait facile de trouver une place de groom, ses domestiques étant choisis parmi les plus jeunes. En effet, leur léger poids était d'un grand avantage pour le service d'une voiture à 2 roues. Ce n'était pas une surcharge, c'était même une garantie d'équilibre. Il pourrait, lui avait-on assuré, gagner beaucoup d'argent dans une place pareille s'il se conduisait bien. Peut-être même, au bout de 3 ans de service, se trouvera-t-il en mesure d'acheter 2 buffles? Cette perspective lui sourit. Tout fier de son idée, imposant comme un homme qui se dit « je vais faire quelque chose de grand », aussitôt son père partit et se rendit chez Adenda et lui communiqua son projet. « Vois un peu, ma chère Adenda, lui dit-il, à mon retour nous serons d'âge à nous marier et nous posséderons 2 buffles pour notre entrée en ménage. » « Très bien, Saïdia, je me marierai volontiers avec toi à ton retour. En t'attendant, je tisserai des ceintures et des robes, je les ornerai, je les peindrai. Enfin, je serai m'occuper depuis le matin jusqu'au soir. » « Je te crois, Denda, mais si j'allais te retrouver mariée ?»« Saïdia, tu le sais bien, je n'épouserai jamais personne autre que toi. Nos pères nous ont fiancés l'un à l'autre. Et toi ?» « Moi, je me marierai avec toi, tu peux en être sûr. Quand je reviendrai, j'appellerai, de loin. Qui t'entendra si nous sommes en train de piller du riz dans le village ?»« C'est vrai. Mais tiens, voici une meilleure idée. Adenda, tu m'attendras près la forêt de chêne, sous l'arbre où pour la première fois tu m'as donné la fleur du jasmin. Mais Saïdia, comment savoir le jour où il faudra t'attendre sous l'arbre ?» Saïdia réfléchit un instant, puis il ajouta. « Tu n'as qu'à compter les lunes. Je resterai absent pendant 3 fois 12 lunes, sans compter celle-ci. Écoute-moi bien, Adenda. À chaque nouvelle lune, tu feras une entaille sur ton bilot à piller. Quand tu en auras fait 3 fois 12, j'arriverai sous l'arbre, mais le jour suivant seulement. « Me promets-tu d'y être ?»« J'y serai, Saïdia. À ton retour, tu me trouveras sous l'arbre, près la forêt des chênes. » Saïdia déchira une bande de la mousseline bleue et usée qui enveloppait sa tête et la donna à Adenda comme un gage de souvenir et d'amour. Puis, il la quitta et s'éloigna de Badur. Il marcha plusieurs jours. Il dépassa Rangasbetung, qui n'était pas encore chef-lieu de Lebak, puis Warung Gunung, où résidait alors le sous-préfet. Le lendemain, il voyait Pondeglang, situé au beau milieu d'un immense jardin. Un jour après, il arrivait à Serang et il restait bouche béante devant la splendeur d'une ville si grande et contenant tant de palais ou de bâtiments construits en briques et toiturés de tuiles rouges. Saïdia n'avait jamais rien vu de pareil. La fatigue le retint une journée entière à Serang, mais à la fraîcheur de la nuit tombante, il reprit son chemin et le lendemain matin il arrivait à Tangerang avant que l'ombre ne lui fût descendue jusqu'aux lèvres. et cependant il portait le grand chapeau de berger que son père lui avait laissé. À Tangerang, il se baigna dans le fleuve tout près le gué, il alla se reposer chez une connaissance de son père. Là, il apprit à tresser des chapeaux de paille suivant la mode et la méthode de Mani. Il y resta un jour pour faire cet apprentissage, se disant que, plus tard peut-être, s'il ne trouvait pas son affaire à Batavia, il pourrait gagner sa vie de cette manière. Le lendemain, à la tombée de la nuit, plein de reconnaissance, il quitta son hôte et se remit en route. Aussitôt que les ténèbres furent épaisses et qu'il se crut certain de n'être vu par personne, il s'arrêta et tira de son sein la feuille de jasmin qu'Adenda lui avait donnée sous le grand arbre. Et après l'avoir couverte de baisers, il se mit à pleurer en songeant qu'il ne la verra pas pendant un si long espace de temps. Le premier jour et même le second, il n'avait pas pris garde à son isolement, rempli, comme il l'était, de ses rêves d'avenir et de l'idée d'amasser de l'argent en quantité suffisante pour acheter deux buffles. Son père lui-même n'en avait jamais possédé qu'un. Son esprit était tailli au bonheur de revoir un jour Adenda. Il ne pensait qu'à elle, et la tristesse de l'adieu ne se fit pas sentir profondément. L'espoir l'avait plongé dans une sorte d'extase. Au moment où il disait adieu à sa bien-aimée, il se voyait de retour sous le grand arbre et lui criant « Me voici, c'est moi !» Ce retour était si proche en son cœur qu'après avoir quitté le village, lorsqu'il passait devant l'arbre du rendez-vous, il se sentit joyeux et triomphant, comme s'il se fût trouvé à la fin de ces fatales 36 lunes qu'il allait lui falloir traverser. Il lui sembla qu'il n'avait qu'à se retourner pour que son voyage fût terminé et pour retrouver Adenda assise et l'attendant sous leur arbre. Mais plus il s'éloignait de Badour, plus il s'aperçut de la longueur mortelle qu'un jour traîne après soi. Ah ! Qui les prévoyait tristes et pénibles ces éternelles 36 lunes qui se dressaient devant ses yeux. Il y avait quelque chose dans son âme qui lui faisait ralentir le pas. La tristesse lui faisait trembler les genoux. Si ce n'était pas là le découragement qui lui conseillait de revenir sur ses pas, c'était tout au moins l'abattement qui n'est pas loin du découragement. Il hésita. Il fut sur le point de ne pas aller plus loin. Mais Adenda, que dirait-elle de son manque de cœur? Il se remit donc en route, mais plus lentement que le jour de son départ. Il serra la fleur dans sa main, et de temps en temps, il la pressait sur son cœur. Il avait vieilli beaucoup depuis 3 jours. Il se demandait comment il avait fait pour rester si calme, jadis. Adenda était pourtant près de lui. Elle lui parlait tous les jours. Tous les jours, il la voyait et lui parlait aussi. Ah, maintenant, si elle venait à apparaître, là, devant lui, quelle ne serait pas son agitation? Il ne comprenait pas non plus comment, après lui avoir adressé son dernier adieu, il n'était pas revenu sur ses pas pour la regarder encore une fois. Il se rappelait même leur dernière dispute. C'était peu de temps avant son départ. Adenda avait filé une longue corde pour le cerf-volant de ses petits frères, mais un défaut qui se trouva dans cette corde fit perdre une gageure aux enfants de Chipuru. Lui, Saïdia, se fâcha tout rouge. Aujourd'hui, il se demandait comment, pour une si petite cause, il avait pu entrer contre Adenda dans une si furieuse colère. Quand même elle aurait laissé un défaut dans la corde, et partant. Quand même elle eût été cause de la perte de la gageure. Quand même ce déboire ne fut pas provenu de la malice et de l'adresse du petit Diamien, qui, de derrière une haie, avait lancé un gros morceau de verre contre le cerf-volant. Fallait-il se montrer si dur envers elle et lui adresser des injures si violentes? Si j'allais mourir à Batavia, se disait-il, sans lui avoir demandé pardon de ma dureté, suis-je donc un homme assez méchant pour jeter des injures à la face d'une jeune fille? Et chacun à Badour, apprenant que je suis mort à l'étranger, ne s'écriera-t-il pas? C'est bien fait, il n'avait pas besoin d'insulter Adinda. Ainsi couraient ses pensées, entraînées par un courant tout autre que celui de sa première exaltation, se traduisant d'abord en monosyllabes à moitié articulées, elles finirent par dégénérer en une sorte de mélopée douloureuse. Voici ce qu'elle chantait à voix basse. Je ne sais où je mourrai. J'ai vu la grande mer du côté du sud, où je suis allée avec mon père pour faire du sel. Si je meurs sur la mer et que l'on jette mon corps dans l'eau profonde, les requins accourront. Ils nageront autour de mon cadavre et se demanderont « Lequel d'entre nous va dévorer le corps qui descend là-bas, tout au fond de l'eau ?» Je ne les entendrai pas. Je ne sais où je mourrai. J'ai vu brûler la maison de pas en sous. Il avait incendié lui-même dans un moment de révolte où il voyait tout en rouge. Si je meurs dans une maison en flammes, des poutres enflammées tomberont sur mon cadavre. Et sur la place, au dehors, il y aura une foule de curieux qui, tout en criant « Au feu !», jetteront de l'eau pour éteindre l'incendie. Je ne les entendrai pas. Je ne sais où je mourrai. J'ai vu tomber du haut d'un cocotier le petit Siouna, qui voulait cueillir une noix de coco pour sa mère. Si je tombe d'un cocotier, je mourrai au pied de l'arbre, et l'on me trouvera gissant, brisé dans les broussailles, comme Siouna. Ma mère ne pleurera pas, elle est morte. Mais d'autres s'écrieront « C'est Saïdia qui est étendue là !» Je ne les entendrai pas. Je ne sais où je mourrai. J'ai vu le cadavre de Palissou, mort dans la plus extrême vieillesse. Ses cheveux étaient tout blonds. Si je meurs très vieux, avec des cheveux tout blonds, les pleureuses m'entoureront. Elles feront retentir l'air de leur désespoir. Les petites enfants aussi pleureront très fort. Je ne les entendrai pas. Je ne sais où je mourrai. J'ai vu beaucoup de mœurs à Badour. On leur mettait un linceul blanc et on les enterrait. Si je meurs à Badour, on m'enterrera hors du village, à l'est, près la colline, là où l'herbe est très épaisse et très haute. Adinda viendra, elle passera sur ma tombe, et le beurre de sa tunique glissera doucement tout le long du gazon. Je l'entendrai. Saïdia arriva enfin à Batavia. Il alla prier un homme riche de le prendre à son service. Cet homme le prit pour groom, par la raison qu'il ne le comprenait pas. À Batavia, on préfère les domestiques qui ne savent pas le malais. On est certain qu'ils ne sont pas aussi corrompus que ceux qui fraient depuis longtemps avec les Européens. Saïdia apprit vite le malais, mais sa conduite resta irréprochable. Il pensait toujours aux deux buffles qu'il voulait acheter. Il pensait toujours à Adinda. Il devint grand et fort. Il mangeait tous les jours, ce à quoi il n'était pas habitué à Badour. On l'aimait à l'écurie, et certes, on ne l'aurait pas éconduite s'il avait demandé la main de la fille du cocher. Son maître lui-même était si content de Saïdia que, peu après, il l'éleva au grade de valet de chambre. Ses gages furent augmentés, on le combla de cadeaux, tant on était satisfait de ses services. La femme de son maître venait de lire un roman d'Eugène Sue qui faisait tant de bruit à cette époque. Ce roman avait pour titre « Le Juif errant ». En voyant Saïdia, elle pensait à Djalma, et presque toutes les jeunes filles comprenaient mieux qu'auparavant comment le peintre javanais Kaden Saleh avait pu jouir à Paris d'une si grande renommée. Mais le jour où, après 3 ans de service, Saïdia demanda son compte et son certificat de bonne conduite, on trouva qu'il n'était qu'un ingrat. On ne put néanmoins les lui refuser et Saïdia se mit en route, le cœur léger. Il passa à Pissing. Il y avait longtemps déjà qu'Avelard y avait demeuré, mais Saïdia ignora ce détail, et peut-il connu, il avait bien autre chose dans la tête et dans le cœur. Il comptait les richesses qu'il rapportait au pays. Il avait sa feuille de route, et son certificat de bonne conduite dans un étui de bambou. Un autre étui, suspendu à son cou par un cordon de cuir, pendait sur son épaule. Cet étui paraissait lourd, mais Saïdia ne se plaignait pas de son poids. Il avait même l'air de prendre plaisir à sentir ce frôlement continu. Jugez donc, il y avait là-dedans 30 piastres d'or, 170 francs, assez pour acheter 3 buffles. Qu'allait dire Adenda? Et ce n'était pas un corteau. On lui voyait briller sur le dos le fourreau en argent du poignard qu'il portait à sa ceinture. La garde de ce poignard était en bois dur bien ciselé, et Saïdia l'avait enveloppé soigneusement dans de la soie. Et ce n'était pas son seul trésor. Sous l'écharpe qui saignait ses reins, il cachait une cordelière en chaînon d'argent, terminée par une agrafe en or. Cette cordelière était courte, il est vrai, mais Adenda avait la taille si fine. Puis, dans un sachet, suspendu sur la poitrine, dans un sachet de soie, il y avait le reste de la feuille de jasmin qu'Adenda lui avait donnée au départ. Ce jasmin était séché, fané, flétri, mais Saïdia ne l'eût pas donné pour toutes ses richesses. Est-il étonnant qu'il ne s'arrêta pas plus longtemps à Tangerang? Il y resta les heures nécessaires pour aller voir l'ami de son père, qui lui avait appris à tresser des chapeaux de paille, si fins et si élégants. Est-il étonnant qu'il parlât peu aux jeunes filles qui, selon l'usage de ces contrées, l'arrêtaient en chemin et lui demandaient « D'où venez-vous? Où allez-vous? » Est-il étonnant qu'il ne s'extasiât plus devant les beautés de Sorin, lui qui venait de Batavia? Est-il étonnant qu'il ne se cachât plus dans les haies du chemin, comme il le faisait 3 ans auparavant, en apercevant l'équipage du préfet, lui qui venait d'admirer les grandeurs et les magnificences du seigneur, résidant à Baltenzor, bien plus puissant que le préfet, puisqu'il était le propre aïeul de l'empereur de Surakarta? Est-il étonnant qu'il ne prêtât pas grande attention aux récits de ceux qui l'accompagnaient à un bout de chemin, et qui parlait de ce qui s'était passé à Bantong Kidou, qui lui racontait comment la culture du café venait d'y être supprimée, après beaucoup de pain et d'efforts perdus? Que lui importait que le chef du district de Parangkudjang ait été condamné à 15 jours d'arrêt dans la maison de son beau-père, pour avoir volé sur la voie publique? Il lui importait peu que Badour ne fût plus chef-lieu, et qu'on l'eût remplacé par Angas Betung. On lui apprenait qu'il y avait là un nouveau sous-préfet, vu que le précédent venait de mourir peu de mois auparavant, que ce fonctionnaire avait parlé de telle façon dans la première séance du conseil, que depuis quelque temps, personne n'avait été puni pour avoir porté plainte. Enfin, qu'on espérait voir indemniser les cultivateurs dépouillés et faire restituer tout ce qui avait été volé au peuple. Non. Les yeux de son âme contemplaient de plus beaux mirages. Il cherchait à entrevoir dans les nuages cet arbre dont il était encore trop loin pour le toucher. Il était trop loin de Badour. Il cherchait à saisir de sa main frémissante l'air qui l'entoura, espérant embrasser par avance l'être qui l'attendait sous l'arbre des fiançailles. Il retraçait dans sa pensée les traits d'Adenda, sa tête, ses épaules. Il voyait sa riche tresse de noir de jais ondulant sur son cou. Il admirait son grand œil rayonnant au fond de son orbite, ses narines retroussées avec tant de fierté, quand dans les jeux de leur enfance, chose qu'il ne comprenait plus, il se plaisait à la taquiner. Il voyait les coins de sa bouche aiguissante un sourire malin, sa gorge naissante faisant rebondir sa queue raide. Il suivait des yeux la tunique qu'elle avait tissée de sa main. Elle dessinait la courbe de ses hanches, puis elle descendait en ondulations gracieuses tout le long de ses genoux jusqu'à la naissance de son petit pied mignon. Non, il n'entendait guère ce qu'on lui disait. Il cherchait à entendre d'avance ce qu'Adenda allait lui dire, elle. Il entendait lui murmurer de sa douce voix. « Saïdia, sois le bienvenu. J'ai pensé à toi en fillant, en tissant et en pillant le riz, sur mon bilot qui porte 3 fois 12 mâts faites de ma main. Me voici sous l'arbre, le premier jour de la nouvelle lune. Sois bienvenue, Saïdia, je vais être ta femme. Voilà bien la musique qui résonnait à ses oreilles et l'empêchait d'entendre toutes les nouvelles qu'on lui donnait sur son chemin. Enfin, il entrevit l'arbre. Non, plutôt, il aperçut un large espace, noir, épais, qui lui interceptait la vue des étoiles. Là devait se trouver la forêt. Là se trouvait l'arbre sous lequel il allait revoir Adenda au lever de la prochaine aurore. Il se mit à chercher dans les ténèbres. Il fouilla et toucha plusieurs troncs d'arbres. Enfin, sur une des faces d'un arbre, regardant le sud, il sentit une rugosité bien connue. Il mit le doigt dans une fente taillée autrefois par 6 pontées. Ce dernier avait creusé cette fente pour conjurer le mauvais esprit qui faisait souffrir sa mère d'un affreux mal de dents peu de temps avant la naissance de son plus jeune frère. C'était lui, c'était l'arbre que Saïdia cherchait. Oui, c'était bien l'endroit où pour la première fois il avait vu Adenda d'un œil plus sympathique que ses autres petits camarades. C'était là qu'un matin, elle avait refusé de prendre part à un jeu qu'elle jouait presque tous les jours avec tous les autres enfants, filles et garçons. C'est là qu'elle lui avait donné le jasmin. Il s'assit au pied de l'arbre et leva les yeux vers les étoiles. Quand une d'entre elles fuyait, il se disait « En voilà une qui salue mon retour à Badour ». Il se demandait si Adenda dormait et si elle n'avait pas manqué de faire les entailles convenues dans son bilot à piller le riz. Il ne se consolerait pas si elle en avait oublié une, 36 pourtant. N'y en avait-il pas assez? Avait-elle tissé et brodé de belles tuniques? Il se demandait aussi qui pouvait bien demeurer dans la maison de son père. Sa jeunesse lui revenait à la pensée. Il se rappelait sa mère. Il voyait encore le moment où son buffle l'avait sauvé des griffes du tigre. Il se demandait ce que sera devenu Adenda si l'animal avait été moins fidèle et moins courageux. Les étoiles couchaient et disparaissaient à l'ouest. Saïdia ne les quittait pas des yeux. À chaque étoile qui s'effaçait dans l'horizon, il calculait que le soleil était plus près de se lever du côté de l'Orient. Il se sentait lui-même plus près du moment qui devait le réunir à son Adenda. « Bien sûr, pensait-il, elle arrivera dès le premier rayon. Oui, au crépuscule, elle sera ici. Ah, pourquoi n'est-elle pas ici depuis la veille du jour convenu ?» Il s'affligeait de ce qu'elle n'eût pas devancé le remontement qui, 3 années durant, avait enchanté sa pensée. La force de son amour le rendait injuste. Il lui semblait qu'Adenda eût dû se trouver là et l'attendre, lui, qui se plaignait maintenant, déjà avant l'heure du rendez-vous donné. Cependant, il se plaignait bien à tort. Le soleil n'était pas encore levé. Le jour n'avait pas encore lancé un regard sur la plaine. Les étoiles pâlissaient là-haut devant l'éclat du soleil qui montait derrière l'horizon. Les cimes des montagnes s'enveloppaient de couleurs bizarres qui les faisaient ressortir sur le fond clair de la nature. Çà et là, à travers les nuages de l'est, partaient des traits brillants comme des flèches d'or et de feu lancées parallèlement à l'horizon. Mais ces traits d'or et de feu, météores d'un instant, moura dans le moment même où il venait de naître, disparaissait et semblait retomber derrière le rideau mystérieux qui tenait le jour caché devant les yeux de Saïdia. Pourtant, la lumière se faisait peu à peu autour de lui. Déjà, il entrevoyait le paysage. Déjà, il parvenait à distinguer les panaches des cocotiers qui lui signalaient Badour où dormait Adenda. Que dis-je? Où elle ne dormait pas? Où elle ne dormait plus? Comment aurait-elle pu dormir? Ne savait-elle pas que Saïdia l'attendait? Elle n'avait pas dormi de toute la nuit. À coup sûr, les gardes-nuit du village avaient dû frapper à sa porte pour lui demander pourquoi il y avait encore de la lumière chez elle. Et son aimable sourire avait dû leur faire croire qu'un vœu la tenait éveillée. Sans doute, elle avait répondu qu'il lui fallait finir la robe qu'elle était en train de tisser, et qui devait se trouver prête pour le premier jour de la nouvelle lune. Peut-être encore avait-elle passé la nuit dans l'obscurité, assise sur le bloc à piller le riz, comptant et parcourant d'un doigt avide les 36 entailles, se succédant les unes aux autres sur les flancs du bilot. Qui sait? Peut-être s'était-elle donné l'émotion d'une erreur de compte, qu'elle trouvait une marque de moins, et elle les recomptait toutes de nouveau afin d'acquérir la bienheureuse certitude qu'il y avait bien 3 fois 12 lunes complètement écoulées depuis que Saïdia l'avait vue pour la dernière fois. À son compte, elle aussi devait tendre son regard, maintenant que le jour commençait à poindre. Elle aussi devait se fatiguer les yeux pour aller dans la ligne d'horizon, au-devant du soleil, de ce soleil si paresseux qui retarde. Mais voici une ligne d'un rouge bleuâtre qui vient d'apparaître. Elle s'attache aux nuages dont les contours s'enflamment. Des éclairs commencent à jaillir, et des flèches de feu traversent de nouveau l'espace pour ne plus retomber. Elle s'enfonce et pénètre dans le fond gris du ciel. Le rayon ardent s'élargit en cercle plus étendu. Ils se rencontrent, s'entrecroisent, serpentent, errent de tous côtés, se courbent ou se relèvent, et se réunissent en faisceaux, fulgurants, projetant leur éclat doré sur un ciel d'azur. Du rouge, du bleu, du jaune, de l'argent, du pourpre, azuré. Dieu du ciel, c'est l'aurore, c'est l'heure du rendez-vous. Ils allaient se revoir. Saïdia ne savait pas de prière. C'eût été grand dommage qu'on lui en eût appris, car en aucune langue humaine, il ne se trouve prière plus sainte, action de grâce plus fervente, que son extase muette. Il n'aurait pas voulu aller à Badour. Revoir Adana de la sorte lui paraissait moins enviable que la certitude de sa prochaine arrivée. Il était assis au pied de l'arbre et laissait errer son œil sur le paysage. La nature lui souriait. Elle avait l'air de lui souhaiter la bienvenue comme une mère à son enfant. Et de même que dans sa joie, celle-ci se rappelle volontiers les douleurs passées et se plonge dans ses souvenirs d'autrefois. De même, Saïdia se plaisait à revoir tous les endroits qui lui retraçaient sa première enfance. Mais ses yeux et ses pensées avaient beau ne pas se fixer, son regard et son cœur s'élançaient sans cesse vers le sentier conduisant de Badour à l'arbre. Tout ce que ses sons percevaient lui criait « Adenda ». À gauche, là où la terre est si jeune, un jour un jeune buffle tomba. Les paysans se réunirent à cette place pour sauver la bête. On sait que perdre un buffle, ce n'est pas une petite affaire. Suspendus à de fortes cordes, ils descendirent. Le père d'Adenda se montra l'un des plus résolus. Ah, comme Adenda l'avait encouragé et applaudi. Et là-bas, de l'autre côté, sur cette hauteur où le bois de cocotier domine les cabanes du village, là, Siouna s'était tué en tombant du sommet d'un arbre. Sa mère avait bien pleuré, car il était si petit, si petit. Elle pleura plus que si elle avait perdu son enfant arrivé à l'âge d'homme. Il est vrai que Siouna était bien petit. Il était plus petit et plus faible qu'Adenda. Personne encore sur le sentier qui conduit de Badour à l'arbre. Tout à l'heure, elle viendra. Oui, il fait à peine jour. Saïdia aperçut un écureuil qui, leste et agile, folâtrait et sautillait sur le tronc d'un cocotier. La gentille petite bête, aussi jolie de forme que gracieuse dans ses mouvements, sans se soucier des malédictions du propriétaire de l'arbre, allait, venait, montait, descendait, sans se lasser, tout le long de ce tronc. Saïdia regardait l'écureuil et ne se fatiguait pas de le regarder. C'était comme un point d'arrêt imposé à ses pensées, une suspension du pénible travail qu'elle faisait depuis le lever du soleil. Il trompait ainsi l'attente qui le torturait. Peu à peu, ses impressions s'exhalèrent en paroles cadencées, et il chanta ce qui se passait en son âme. Voyez comme l'écureuil cherche sa nourriture sur le cocotier. Il monte, descend, Il folâtre à droite et à gauche. Il tourne autour de l'arbre. Il saute, tombe, grimpe et retombe. Il n'a pas d'ailes et pourtant il est agile comme l'oiseau. Salut à toi, mon écureuil. Je te souhaite du bonheur. Toi, tu trouveras certainement la nourriture que tu cherches. Mais moi, seul, assis sur la lisière de cette forêt, j'attends la nourriture de mon âme. Depuis longtemps déjà, mon écureuil s'est rassasié. Depuis longtemps, il est rentré dans son petit nid, lui. Mais moi, j'ai l'âme et le cœur toujours amèrement tristes. Adenda. Personne un cœur sur le sentier qui va de Badour à l'arbre. L'œil de Saïdia courait après un papillon qui semblait se réjouir de la chaleur naissante. Il chanta. Voyez là-bas comme il voltige, ce papillon. Ses ailerons reluisent pareil à une fleur multicolore. Son petit cœur s'est épris de l'amandier en fleurs. Bien certainement, il cherche sa bien-aimée au doux parfum. Salut à toi, mon papillon. Je te souhaite du bonheur. À coup sûr, toi, tu trouveras ce que tu cherches. Mais moi, seul, assis sur la lisière de cette forêt, je ne trouverai pas ce que mon âme attend. Depuis longtemps déjà, le papillon a embrassé, lui, la fleur qu'il aime tant. Mais moi, j'ai le cœur et l'âme toujours amèrement tristes. Adenda. Et personne, personne sur le sentier qui va de Badour à l'arbre. Déjà le soleil s'élevait et son ardeur commençait à gagner l'atmosphère. Saïdia reprit. Voyez comme le soleil brille là-haut, bien au-dessus de la colline. Il se sent trop ardente et désire redescendre pour se coucher dans la mer, comme dans les bras d'une épouse. Salut à toi, ô soleil, je te souhaite du bonheur. Toi, tu trouveras certes ce que tu cherches. Mais moi, seul, assis sur la lisière de cette forêt, j'attends où reposer mon cœur. Depuis longtemps déjà, le soleil sera redescendu, et lui, il se couchera dans la mer. Quand les ténèbres seront revenues. Et moi, j'aurai toujours l'âme et le cœur amèrement tristes. Adenda. Et il n'y avait toujours personne sur le chemin qui va de Badour à l'arbre. La voix de Saïdia continua sur le même ton plaintif. Quand il ne voltigera plus de papillons, quand les étoiles auront éteint leur feu, quand le jasmin n'aura plus de parfum, quand il n'y aura plus de cœurs affligés, ni de bêtes fauves dans les forades, quand le soleil reprendra sa marche et quand la lune prendra l'est pour l'ouest, alors, si Adenda n'est pas venu, un ange aux blanches ailes descendra sur la terre pour y chercher ce qui y sera resté. Mon corps sera là, gisant au pied de l'arbre. Mon âme est amèrement triste. Adenda. Rien, rien, personne sur le sentier qui va de Badour à l'arbre. Et l'ange apercevra mon corps, il indiquera du doigt à ses frères. Voici un mort qu'on a oublié. De ses lèvres glacées, il baise une fleur fanée. Venez l'enlever avec moi pour le porter au ciel, celui qui a attendu Adenda jusqu'à la mort. Certes, il ne peut pas être délaissé là, seul. Lui dont le cœur eut la force de tant aimer. Alors mes lèvres glacées appelleront une dernière fois l'Adenda de mon âme. Elles embrasseront une dernière fois le jasmin qu'elle me donna. Adenda. Adenda. Et personne ne paraissait sur le sentier qui va de Badour à l'arbre. Oh, assurément, au petit jour, elle était tombée de sommeil, fatiguée d'avoir veillé toute la nuit. Lasse d'avoir attendu tant d'autres nuits. Elle n'avait pas dormi depuis des semaines, c'est cela. Partira-t-il pour Badour? Non, ce serait douter d'elle. Questionnera-t-il cet homme qui, là-bas, mène son buffle au champ? Non, cet homme est trop loin et d'ailleurs, Saïdia ne voudrait pas parler d'Adenda. Il ne veut point prononcer son nom. Il veut la revoir, elle. Elle seule, elle, la première. Allons, allons, elle va venir, elle viendra bientôt. Il attendra. Il attendra. Mais si elle allait être malade? Si elle était morte? Comme un cerf blessé, il court, il vole, tout le long du sentier qui va de l'arbre au village où se trouve Adenda. Il ne voit, il n'entend rien. Et pourtant, il eût pu entendre quelque chose. Il y avait des gens qui, à l'entrée du village, s'étaient mis à crier « Saïdia ! Saïdia !» Mais qu'est-ce cela? Où est la maison d'Adenda? Il ne la voit pas, non? Non, il a passé dans la vitesse de sa course. Ah, voilà qui est fort! Il était arrivé au bout du chemin, à l'extrémité du village, il n'avait rien vu. Il retourne sur ses pas. Il marche, furieux contre lui-même de ce qu'il avait pu dépasser sans la voir, la maison d'Adenda. Il marche, il court, de nouveau, il se retrouve à l'entrée du village. Mon Dieu, est-ce un rêve? Encore une fois, il n'a rien vu, rien trouvé. Il allait recommencer une troisième tentative, mais la force lui manqua. Alors, il s'arrêta et se prit entre les deux mains la tête. Cette tête d'où il voulait chasser la démence qui le gagnait. Il s'écria à haute voix « Ivre, ivre, je suis ivre !» Et les femmes de Badour sortirent de leur maison pour regarder, pleines de pitié, le pauvre garçon qui s'était arrêté là. Elle comprenait bien qu'il cherchait la maison d'Adenda, mais elle le savait, elle, qu'il n'y avait plus de maison d'Adenda dans le village de Badour. En effet, le jour où le chef du district de Parangkujang avait enlevé les buffles appartenant au père d'Adenda, la mère d'Adenda mourut de chagrin et sa petite sœur cadette la suivit peu après dans la tombe, faute de soins et faute de lait. Son père, craignant d'être puni s'il ne payait pas son fermage, quitta le pays. Il emmena Adenda avec ses frères. Mais ayant appris que le père de Saïdia avait subi la bastonnade à Boutenzor pour avoir quitté Badour sans feuille de route, il n'alla ni à Boutenzor, ni à Kraban, ni aux environs de Batavia. Il se rendit à Tilankaan, dans le district de Lebak, qui touche à la mer. Là, il s'enfonça dans les forêts, s'y cacha, il y attendit l'arrivée de Pa Ento, de Pa Lonta, de Si Unia, de Pa Ansiu, d'Abdul Isma et de quelques autres encœurs qui, comme lui, avaient eu leur buffle enlevé par le chef du district de Parangkujang. Tous ces malheureux craignaient d'être punis, faute de pouvoir payer leur fermage. Dès qu'ils se virent réunis une nuit, ils s'emparèrent d'une pirogue de pêche et se mirent à la voile. Ils se dirigèrent vers l'ouest, tenant la côte à droite jusqu'au point extrême de Yava. De là, ils mirent le cap sur le nord dans la direction de Tanaitam, que les marins européens appellent l'île des Princes. Ils doublèrent cette île du côté de l'est, puis ils se dirigèrent vers le Kaisersbaai, la baie de l'empereur, ne perdant jamais de vue le pic élevé de Lampo. Tel était l'itinéraire qu'on s'indiquait, tout bas, à Lebak, lorsqu'il était question de buffles enlevés et de fermages non payés. Mais Saïdia ne comprenait rien à tout ce qu'on lui disait. Il ne se rendit même pas compte de la mort de son père. Il sentait de tels bourdonnements dans ses oreilles que par moments il se figurait entendre battre la charge dans sa tête. Les tempes lui battaient à se rompre, et son sang, bouillonnant furieusement, menaçait de rompre ses artères. Pas un mot ne s'échappait de ses lèvres. Son œil terne lançait de tous côtés des regards fixes, qui ne voyaient ni ne percevaient aucun objet. Tout à coup, il partit d'un éclat de rire lugubre et enraillant. Une vieille femme l'amena dans sa hutte et soigna le pauvre fou. Peu à peu, son rire s'adoucit, mais il restait toujours sans regard et sans parole. Seulement, la nuit, il arrivait parfois que les habitants de la hutte étaient réveillés en sursaut par une voix qui murmurait « Je ne sais où je mourrai ». Les habitants de Badour se cotisèrent pour faire un sacrifice au crocodile de Chungjung qui, seul, pouvait leur accorder la guérison de Saïdia, que l'on croyait fou. Mais Saïdia n'était pas fou. Une nuit, que la lune était claire et brillante, il se leva de son grabat, il quitta à pas de tigre la hutte hospitalière et il s'en alla chercher l'endroit où Adinda avait habité. Ce n'était pas une tâche facile. Il y avait tant d'habitations écroulées. Mais il se dit qu'il reconnaîtrait la place, à l'écartement de l'angle formé par les rayons de lumière qui passaient à travers le bouquet d'arbres. C'est ainsi que le pilote prend sa hauteur sur les phares ou sur les sommets des montagnes. Oui, là, ce bien là, c'est là qu'elle demeura. Tout en trébuchant sur des bambous à demi pourris et sur les débris du toit écroulé, il se fraya un passage vers le sanctuaire qu'il cherchait. En effet, il retrouva quelques bribes de la clôture, près laquelle se trouvait placé le lit d'Adinda. Dans cette clôture se voyait encore plantée la cheville de bambou qui, le soir, lui servait à suspendre sa robe. Mais le lit s'était effondré, comme la maison. Il était presque réduit en poussière. Zaïdia en prit une poignée qu'il pressa contre ses lèvres ouvertes et il aspira avec délice. Le lendemain, il demanda à la vieille femme qui l'avait soignée où se trouvait le bilot à piller le riz dont on se servait chez Adinda. Son hôtesse se réjouit de l'entendre parler. Elle parcourut le village à la recherche du bilot. Lorsqu'elle revint indiquer à Zaïdia le nom du propriétaire, le jeune homme la suivit en silence. Il vit le bloc, le reconnut, et il y compta 32 marques. Alors il donna à la vieille autant d'or qu'il en fallait pour acheter un buffle, et il quitta Badour. À Chilankan, il acheta une pirogue de pêcheur. Quelques jours après avoir mis à la voile, il arriva à Lampung, où se tenaient les insurgés, en révolte ouverte contre le gouvernement. Il entra dans une bande de bantamois, non pas tant pour se battre que pour chercher Adinda. C'était une nature douce, plus enclin à la mélancolie qu'à la haine. Un jour, que selon l'usage, les insurgés avaient été encore battus, Zaïdia rôdait dans un village qui venait d'être conquis par l'armée hollandaise et qui par conséquent se trouvait la proie des flammes. Il savait que la bande détruite se composait pour la plus grande partie d'insurgés bantamois. Semblable à un fantôme errant, il traversait les maisons qui n'étaient pas encore entièrement brûlées. Dans une de ces maisons, il trouva le corps du père d'Adinda. Le misérable gisait, la poitrine trouée par un sabre baïonnette. Près de lui dormaient du sommeil de la mort les trois frères d'Adinda, de tout jeunes gens, presque des enfants, assassinés, massacrés. Un peu plus loin, Zaïdia retrouva Adinda. Mais Adinda était nu. Son cadavre avait subi les derniers outrages. Un petit morceau de mousseline bleue était enfoncé dans la plaie béante qui lui déchira le sein. Cette horrible blessure semblait avoir mis fin à une lutte désespérée. Alors, Zaïdia sortit de cette funeste maison. Il alla au-devant de quelques soldats qui s'amusaient à repousser dans les flammes les deux ou trois insurgés survivants qui cherchait à fuir ce village changé en bûcher. Il s'élança sur eux, les bras ouverts, étendus, et s'empara du plus grand nombre de sabres à baïonnettes qu'il put saisir. Toutes ses armes cherchaient son cœur. Mais Zaïdia ne recula pas d'une semelle. Ce furent les soldats qui reculèrent. Oui, son suprême effort les fit reculer, dans l'instant même où les gardes de leurs sabres à baïonnettes s'entrechoquaient dans sa poitrine.